l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Et bonjour, bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue en direct sur Radio Larzac pour l'actu sur un plateau. C'est la dernière de cette saison, alors on va profiter au max de cette petite heure ensemble pour faire le tour de l'actualité locale. Avec moi, vous l'avez entendu, c'est Nico à la technique. Salut Nico.
Heureux.
Voilà, donc oui, on n'est pas très très frais, mais on tenait vraiment à faire ce dernier direct aujourd'hui parce que voilà, c'est aussi l'occasion de remercier tout le monde une nouvelle fois. Toutes les artistes et tous les artistes, les bénévoles, le public bien sûr. Voilà, c'était vraiment un beau moment de joie.
Et de partage.
Et oui.
Il y avait du monde, tout le monde était content, souriant, ça faisait du bien. On a eu même une... pour faire la transition sur ce qui arrive... Les soulèvements de la terre, il y a eu une petite déambulation, ils sont arrivés derrière la scène avec des banderoles. Nous sommes les soulèvements de la terre.
Et la banderole est encore à la radio. Et justement aujourd'hui, on va parler avec Enora Victor de l'association Terre de Lutte, une association qui porte en collaboration avec la Confédération Paysanne et autres associations locales, les Résistantes, les rencontres des luttes locales et globales qui vont se dérouler sur le Larzac du 3 au 6 août. Nous allons parler de la programmation de ces rencontres, mais aussi on va parler du collectif, tout simplement, des luttes pour le vivant en France et ailleurs. Et puis dans cette émission, vous allez retrouver également un petit moment d'humour offert par les enfants du classe de l'association Myriade et un reportage sur le chant occitan comme créateur de liens sociaux. C'est un reportage que j'ai fait à l'occasion des ateliers du concert du trio Albad à Millau le mois dernier. Mais voilà, tout de suite, place à l'émission. Et nous sommes donc en ligne avec Enora et Victor. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Terre de Lutte donc, est une association qui soutient les collectifs en lutte, à la fois sur des aspects de communication, de levée de fonds, de mise en relation de collectifs. Et Victor, j'ai lu que tu as cofondé cette association. Alors, je voulais commencer par toi, par te demander comment elle est née, simplement.
Alors elle est née d'un constat assez simple, c'est qu'il y a partout sur le territoire en France des centaines de collectifs d'habitants qui se battent contre des projets polluants, et malheureusement que ces projets polluants continuent d'exister et de voir le jour. Vous connaissez sans doute le cas des méga-bâtiments qui est très médiatisé, mais en fait il y a aussi d'autres centaines de projets qui existent, des projets de fermes usines, des projets de méga-méthaniseurs, des projets de centres commerciaux, des projets d'entrepôts Amazon, d'autoroutes, et tout ça, il me semble que c'est complètement... incompatible avec les enjeux écologiques actuels et qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Donc nous, voyant ça, on a décidé de créer cette association et d'essayer de soutenir un réseau d'entraide entre ces collectifs qui se battent partout. Et peut-être un des points de départ de l'association, c'est aussi la création avec le Média Reporter de la carte des luttes, où on peut justement retrouver ces luttes dont je viens de parler. Il y en a maintenant presque 600, 574 je crois pour être précis. Et c'est en tout cas très enthousiasmant de voir que partout sur le territoire, les gens se bougent et refusent ces pollutions.
Oui, donc vous êtes, j'imagine, très impliqué dans ces luttes sur le terrain. Et quel est votre rôle plus précisément à vous deux dans l'asso, s'il y en a un, ou si vous êtes polyvalent, comme on dit?
On est polyvalent. nous, effectivement, on est des personnes, on habite sur des territoires différents. Victor habite dans le Loir-et-Cher et puis moi, j'habite en Normandie. Donc nous, on est déjà, un de nos rôles principaux, on va dire, c'est d'être quand même au contact de ces luttes. Et du coup, ça se fait de plein de manières différentes, en allant les rencontrer, en participant aussi aux mobilisations et en les accompagnant dans ce qu'elles font et là où elles ont besoin d'un coup de pouce. Moi, plus particulièrement, je travaille sur... participer à la coordination de coalitions, notamment la coalition de lutte contre les projets routiers qui s'appelle la Déroute des routes, et puis la coalition de lutte contre l'artificialisation des jardins populaires en ville. Donc voilà, c'est un peu des sujets plutôt de mise en réseau, mais qui comportent évidemment plein de choses, parce que la réalité de ces luttes au quotidien, c'est que c'est des personnes qui s'organisent de plein de manières différentes. Ça va de la réunion publique au tract, en passant par la grosse mobilisation, par le plaidoyer. Enfin, voilà, ces luttes, elles font tout plein de choses. Et donc, nous, on essaie de les lever de plein de manières différentes. Et il y a aussi tout un travail alors là qui est plutôt porté par Victor et puis Chloé, la cofondatrice aussi de l'asso, où là c'est quand même un travail de récit. On essaye aussi quand même de raconter beaucoup cette histoire de ces luttes qui sont un mouvement social en fait, qui s'ignore ou qui s'ignore de moins en moins. Et c'est un gros travail aussi de parler comme aujourd'hui à Radio Larzac ou d'organiser comme cet été les résistantes pour visibiliser ces solidarités et ce récit de lutte qui partout se battent contre un système politique et économique qui se matérialise à travers des projets polluants et imposés.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a besoin de nouveaux récits aussi, je pense, pour changer de mentalité par rapport au vivant et à notre rapport au vivant. Et je voudrais passer maintenant à l'actualité brûlante parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais voilà, hier au Conseil des ministres, Elisabeth Borne a annoncé la dissolution des soulèvements de la Terre. C'était une proposition de Gérald Darmanin. Le gouvernement a justifié la décision en disant que, je cite, « sous couvert de défendre la préservation de l'environnement, les soulèvements de la Terre incitent à la commission de sabotage et dégradation matérielle, y compris par la violence ». C'était dans le décret qui justifie cette décision. Comment vous vous sentez après ces annonces? Comment avez-vous vécu cette dissolution?
Avec beaucoup de colère. Enfin, vraiment, c'est un véritable scandale que met en place le gouvernement là. Il a été heureusement dénoncé très très largement par des centaines d'associations, d'élus, de syndicats, par la Ligue des droits de l'homme, par des observateurs même internationaux. Et vraiment, je crois que c'est complètement indigne de la part de la France d'aller vers ce genre de procédure et ce genre de musellement de l'opposition politique, en fait. Donc nous, avec Terre de Lutte, évidemment, on a soutenu, mais comme des centaines d'associations, et on a soutenu les soulèvements de la Terre face à cette dissolution. Et on rappelle avec eux, je crois, que quel que soit le nom qui soit employé, finalement, les actions vont continuer, les luttes vont continuer de se développer jusqu'à ce qu'on arrive à stopper l'accaparement des terres, de l'eau, des ressources par les agro-industriels et par l'industrie en général qui porte ces projets-là. Donc voilà, cette tentative de nouvellement, elle est scandaleuse, elle est indigne, mais heureusement, nous on pense et on va continuer à se battre, et les résistantes auront l'occasion d'en discuter d'ailleurs, mais on va continuer à se battre de plein de façons différentes pour que ces projets-là n'aient pas lieu, pour qu'on reprenne la main.
Ouais, et peut-être là-dessus aussi, ce qui est intéressant, je pense, c'est que le gouvernement parle de sabotage, le Premier ministre parle de ça, nous on parle, les soulèvements de la Terre et les luttes qui y participent parlent de désarmement. On parlait tout à l'heure du récit, je crois qu'on fait face à des gens qui racontent un récit de eux seraient du côté de la raison, de la rationalité et de projets qui seraient utiles, etc., etc. Et nous on serait du côté visiblement du terrorisme, hein, c'est quand même ce mot-là qui est utilisé alors qu'il n'y a jamais eu aucune atteinte aux personnes dans aucune action des soulèvements de la Terre. Et en fait, on parle de désarmement parce que c'est ce récit-là, je pense, qui est important. C'est que ces entreprises, ces multinationales, ces projets polluants qui sont ciblés par les luttes locales dans leurs actions et par le mouvement des soulèvements de la Terre, c'est des projets qui sont écocides, qui sont climaticides et qui participent activement à la destruction du vivant. C'est pour ça aussi qu'on dit maintenant que, en fait, ça a été entendu cette semaine, le gouvernement n'est pas coupable d'inaction climatique. En fait, il est coupable d'actions délibérées de destruction du vivant à travers le soutien à ces projets, un soutien financier, un soutien politique et l'opposition, et les musellements, comme disait Victor, de l'opposition. Et donc, nous, c'est ça aussi qu'on va continuer à rappeler. Et donc, effectivement, le gouvernement, je pense, a peur de ce qui se passe et se trompe, en fait, lourdement en pensant que le fait de dissoudre les soulèvements de la Terre va mettre un frein à la solidarité et à ce qui se passe aujourd'hui dans les luttes locales qui sont en train de prendre conscience aussi de leur force et de leur capacité à obtenir des victoires un peu partout en France contre des projets destructeurs du vivant.
Mais par ailleurs, c'est d'autant plus scandaleux que dans le cas des bassines, dans la plupart des autres cas, quasiment tous en fait, on parle de collectifs d'habitants, de gens comme vous et moi qui se battent contre un projet qui leur a été complètement imposé, qu'ils ont découvert parfois la veille ou dans les journaux et sur lesquels on ne les a pas consultés du tout. Et ayant épuisé tous les moyens légaux, ils se font quand même, ces projets se font quand même et donc évidemment ces habitants s'énervent et évidemment ils font énormément d'actions. En fait, aujourd'hui sur le Larzac, c'est comme si aujourd'hui on disait que la lutte au Larzac était constituée d'éco-terroristes et avait fait des actions extrêmement violentes parce que ils ont empêché l'armée de construire leur terrain militaire. Enfin, on est sur le même historique de lutte et sur les mêmes façons de lutter. Simplement, le gouvernement est beaucoup plus violent, en tout cas, cherche vraiment à nous discréditer et on ne se laissera pas faire.
Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que la violence, on voit bien qu'elle est du côté du gouvernement et du côté des forces de l'ordre qui sont extrêmement violentes envers les manifestants et manifestants. Et le gouvernement, comme vous l'avez dit, est violent envers la terre et envers le vivant.
Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement dit, par exemple, là, à travers la voix d'Olivier Véran, la violence n'est pas légitime, le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit. Mais je crois qu'ils oublient un petit peu les centaines de personnes qui se sont fait mutiler et éborgner dans les mouvements sociaux et les manifestations écologistes ces dernières années. Ils oublient qu'il y a deux personnes qui ont failli mourir à Sainte-Soline parce qu'elles ont été visées par des tirs de grenades en pleine tête, qu'il y a des personnes qui ont perdu l'usage d'un membre ou d'un œil, etc. Enfin, en fait, ils oublient, je pense, qu'il y a effectivement une violence qui semble légitime dans cet état de droit, mais que c'est uniquement celle d'État à leurs yeux. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, il y a une colère qui s'est de la part des luttes et de la part des manifestants écologistes ou dans la lutte dans le mouvement pour les retraites, hein, c'est la même chose. Si cette colère elle existe, c'est bien parce qu'il y a une énorme violence en face de nous et que donc, voilà, on pense que c'est intéressant de questionner aussi ce positionnement d'un État qui est de plus en plus répressif, une police qui est de plus en plus violente, qui mutile, qui tue des gens aussi. Enfin, on l'a encore vu d'ailleurs, ça a été vu, voilà, on n'est pas si loin de Bernard Cazeneuve a lancé son mouvement politique récemment. Il faut rappeler que sous son gouvernement, il y a un militant écologiste qui est mort, pareil, à cause de la, enfin, qui a été tué par la police. En fait, voilà, cette violence, en fait, elle existe, elle est présente dans l'État, elle est de plus en plus forte contre les militants écolos, et c'est nous qui nous faisons traiter de terroristes, alors que pour autant, nous, on n'a jamais ciblé les personnes, contrairement aux milliers de grenades qui nous ont été jetées au visage par les forces de l'ordre à Sainte-Soline récemment. Donc, c'est intéressant de voir quand même ce discours qui est répété par le gouvernement pour masquer en fait leur défaillance et leur violence.
Oui, bien sûr. Et puis, on a bien vu quelques semaines après Sainte-Soline qu'il y a eu une autre manifestation contre l'allongement de l'autoroute entre Toulouse et Castres, où là, pour le coup, il y avait beaucoup moins de forces de l'ordre déployées. Et la manifestation s'est très bien passée. Donc, on voit bien que la violence qu'il y a eu à Sainte-Soline, même si les médias traditionnels, disons, veulent nous faire croire le contraire, elle venait en très 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 grande partie des forces de l'ordre et pas des manifestants.
Bah, oui, et puis c'est la sortie du maintien de l'ordre, la France de maintien de l'ordre, qui est plutôt une création du désordre, à vrai dire, qui est bien employée et qui est dénoncée à l'international et par tous les observateurs des droits de l'homme, et ça c'est enfin, extrêmement...
Oui, voilà, l'ONU a aussi repris la France à propos de ça, effectivement.
Oui, l'Amnesty International aussi.
Et juste en deux mots, dissoudre les soulèvements de la terre ou réprimer dans la violence, c'est clairement mettre de l'huile sur le feu de la part du gouvernement et au contraire, ça créera toujours plus de violence. Leur responsabilité, c'est d'arrêter ça.
Oui, et donc on en a parlé brièvement des résistantes, on va en parler plus amplement dans une deuxième partie d'émission. Mais voilà, peut-être un deux mots, nous commencer à dire... comment a émergé cette idée de rassemblement, de lutte locale et globale qui va se passer donc sur le Larzac cet été du 3 au 6 août?
Eh bien oui, c'est en lien évidemment avec tout ce qu'on vient de dire. L'idée des résistantes, elle est venue du constat justement depuis de deux ans et plus de travail qu'on fait en soutien au local, de se dire on a fait des formations, on a fait des rencontres, on s'est organisé en coalition contre les projets routiers, contre les destructions des jardins populaires, etc., etc., contre les méga-bassines. On a fait beaucoup de communication, on a fait des rapports, on a fait etc., etc. Mais il nous semble que l'histoire militante est aussi faite de grands rassemblements et de grands moments où on se retrouve, on se rencontre, on apprend à travailler ensemble et puis on s'organise ensemble. Et les résistantes, ça doit être ça pour les luttes locales, pour les luttes globales également, et entre autres les luttes locales. Et on avait envie de faire justement un moment où on puisse dire à ces 574 luttes de la carte de reporter et puis toutes celles même qu'on ne connaît pas forcément, de venir se rencontrer et de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et ça va, en fait, sur tous les aspects. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour combattre ces projets juridiquement? Comment est-ce qu'on peut envisager, imaginer de nouvelles actions? Comment est-ce qu'on peut envisager de nouvelles manifestations? Comment est-ce qu'on peut se protéger aussi ensemble par des soins, par des mesures d'antirépression? Comment est-ce qu'on peut être plus solidaire? Comment est-ce qu'on peut créer plus d'alliances aussi entre des paysans, des syndicalistes, des habitants, toutes les personnes qui participent aux luttes? Et donc, on avait envie de faire une grande photo de famille et une grande retrouvaille. Et donc, c'est ça a donné lieu. lieu aux résistantes après des discussions et une envie partagée avec la Confédération paysanne et les faucheurs volontaires qui co-organisent l'événement.
Oui, et puis du coup, c'est aussi les 20 ans du Rassemblement altermondialiste de 2003 sur le Larzac. Je pense que le lieu, du coup, n'a pas été choisi au hasard.
Oui, alors je crois qu'il y a une volonté de ne pas faire de ce rassemblement une commémoration ça, mais bien plutôt de poursuivre ensemble une histoire de lutte, une histoire militante commune, hein, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé au Larzac, je pense que ça nourrit beaucoup les imaginaires. On est dans les années 90, on n'a pas vécu cette lutte, mais pourtant on la connaît et elle nous inspire encore maintenant. Ça faisait sens, en fait, je crois, sans regarder vers l'arrière, mais plutôt en regardant vers l'avant et en se nourrissant de toutes ces expériences de lutte ici, sur cette terre de lutte qu'est le Larzac. C'est une super rencontre, je pense, qu'on a fait avec le plateau et ses habitants et ses habitants, et avec la conf et les faucheurs de l'Aveyron, là, parce que, en fait, ça fait beaucoup sens pour nous de nous retrouver et de partager des constats, de partager des solidarités et de construire un agenda de mobilisation et de stratégie commune pour les années qui viennent, quoi.
Et dans le programme, il y aura des temps, évidemment, de discussion et d'histoire autour de la lutte de l'Arzac, mais justement comparer aux luttes actuelles et voir comment est-ce que ça nous nourrit et comment est-ce qu'on partage cette histoire commune, justement, pour aller plus loin. Et c'est hyper intéressant de voir, quand on revoit tout ce l'Arzac, quand on relit un peu toutes les histoires, de voir que finalement, les choses n'ont pas tellement changé, les moyens d'action sont plus ou moins les mêmes et cette stratégie qui a été gagnante peut être réutilisée.
Bien sûr. Eh bien, on va parler plus en détail de tout ça juste après une pause musicale, si ça vous va, restez avec nous. On va écouter La Mal Coiffée, un groupe donc de musique occitane qui fait écho au reportage que vous allez entendre tout à l'heure. Donc, on écoute Patarem sur Radio Larzac.
Patarem, patarem, cap al centre del monde. Patarem, patarem, zingo, zango, zingo, zango, zingo. Patarem, patarem, cap al centre del monde. Burillaires d'une terre rebondida, d'une terre rebondida. Patarem, patarem, cap al centre del monde. Patarem, patarem, zingo, zango, 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 zingo, zango.
De retour dans l'actu sur un plateau avec Terre de lutte sur Radio Larzac. Nous sommes toujours en ligne avec Enora et Victor pour parler des résistantes, les rencontres des luttes locales et globales qui vont se passer sur le Larzac cet été du 3 au 6 août. Donc on en a parlé brièvement tout à l'heure. L'objectif, c'est de créer des alliances, de visibiliser aussi ces mouvements de lutte locale à travers la France, de rassembler. Et vous, Enora, Victor et l'équipe de Terre de Lutte, vous êtes venus plusieurs fois sur le terrain, sur le Larzac, pour rencontrer les collectifs locaux, les gens qui vous ont contacté. Donc la construction du programme a été très participative, en tout cas.
Oui, c'est ça. Ça fait depuis janvier maintenant qu'on fait des allers-retours très fréquents, et puis des jours même importants sur le Larzac. Et on vient d'ailleurs toujours plus nombreux de différentes luttes à travers la France. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent. Le programme, on l'a construit effectivement avec un formulaire et de façon participative. Il y aura, je suis content de vous annoncer qu'il y aura plus de 100 temps différents sur les 4 jours, à la fois énormément d'ateliers, de tables rondes, de conférences, d'assemblées, dans le travail entre luttes très concrets pour justement apprendre à se rencontrer et s'organiser. Et puis aussi, évidemment, des temps un peu plus festifs avec des concerts du soir, des spectacles, des animations. Il y a qui sont présents, je crois pas, en disant que Radio Larzac couvrira l'événement de façon assidue.
Et oui, j'allais en parler, mais Radio Larzac évidemment sera présente avec un rassemblement de radio qui va s'appeler Radio Résistante. Et l'idée, voilà, c'est de relayer un peu tout ce qui se passe pendant ces 4 jours et de faire des ateliers aussi, des tables rondes, des plateaux, mais aussi de diffuser toute une série de reportages de contenu des radios. Voilà, qui ont du contenu parce qu'elles suivent les luttes qui se passent un peu partout où elles sont implantées. Je ne sais pas si Nico, tu veux ajouter des choses.
Ben non, c'est parfait, c'est ça.
C'est ça, donc nous aussi on est en train de faire des visios, de faire des réunions avec les différentes radios. Et en tout cas, on voit voilà, qu'il y a beaucoup d'envie de se rassembler à la fois du côté des collectifs, à la fois du côté des radios et des médias. Donc je suppose peut-être vous avez rencontré de nouveaux collectifs, de nouvelles luttes qui sont venues vers vous à ce moment-là, ou c'était vraiment une mise en réseau des collectifs qui étaient déjà un peu dans votre association?
Les deux, disons que en fait dans les luttes locales il y a énormément de convergence entre plein d'assos et d'organisations au niveau local et aussi donc au niveau national. Quand on parle d'organisations comme les syndicats par exemple, évidemment les syndicats qui s'impliquent localement, il y a une remontée aussi nationale sur les sujets sur lesquels ils s'impliquent, donc ou les associations. Donc en fait nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel un peu large à participation. On a construit le programme avec en tête l'idée que nous, on pense que les personnes qui s'impliquent dans les luttes sont expertes de leur lutte et que donc on ne voulait pas que ce soit ni un catalogue d'associations, ni des prises de parole de personnes qui théorisent les luttes sans forcément en faire partie. On avait vraiment envie que ce soit des temps de rencontre et pour croiser justement à la fois le travail de chercheuses ou de chercheurs, d'organisations, de personnes voilà qui s'impliquent dans les luttes de différentes manières, et aussi de personnes qui sont membres de collectifs, etc. Donc on a un peu lancé largement dans ces réseaux-là. Ça s'est diffusé et je crois qu'il y a eu en fait un enthousiasme assez collectif et que donc les gens ont contacté eux-mêmes leur réseau et qu'on se retrouve aujourd'hui avec plein d'organisations qui soit œuvrent dans les luttes, soit ont envie de s'en rapprocher et plein de collectifs en lutte qui seront présents. Et donc voilà, il y a à la fois des gens qu'on va rencontrer, des gens qui vont se rencontrer et aussi des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et avec lesquels nous on a l'habitude de travailler qui vont se retrouver ici. Et voilà, on a vraiment... on tenait vraiment à ce que ce soit un temps de discussion, de débat aussi, pouvoir prendre le temps de discuter, de se poser, de creuser ce qui parfois peut nous opposer, faire débat, de creuser aussi ce qui au contraire nous rassemble, pour prendre ce temps quoi de respiration dans nos agendas de lutte qui sont bien remplis et dans lesquels souvent on court un peu dans tous les sens et on ne prend pas toujours le temps de se poser. Là, c'est pensé comme ça, pour avoir un temps pour discuter, pour se rencontrer et pour élaborer aussi nos stratégies.
Oui, oui. Bien sûr, on a invité très largement beaucoup de personnes locales. On parle de la Confédération Paysanne Aveyron qui est très impliquée, mais pas que. Et effectivement, différents syndicats, différents assos. On a fait des soirées d'infos à Santa Fe, à Rodez, à la Blaquière, à Toulouse, enfin dans plein d'endroits autour, aussi même directement sur le Larzac. Et en tout cas, beaucoup de personnes ont pris une décision qu'on prend en charge des temps dans la programmation, que ce soit sur le fond ou sur la forme.
Mmh. Bien sûr. Il y a une grosse thématique évidemment autour des luttes paysannes hein, sur lesquelles sur laquelle la Confédération paysanne d'ici et avec tous leurs réseaux sont très impliqués. Donc évidemment le fait que les personnes, enfin nous on a tenu dès le début à organiser ces temps comme tu disais tout à l'heure en plénière d'appels un peu larges. On a passé les infos dans la brebis. Enfin voilà, évidemment on a essayé de faire en sorte que un maximum de personnes d'ici puissent se sentir les bienvenues à participer et on est contents parce que effectivement c'est des temps. Hier on était encore en journée à l'ancienne école du Larzac sur la programmation. Il y a des gens qui sont venus nous rencontrer, qui viennent proposer des choses, qui viennent un peu travailler avec nous. Et ça fait quelque chose d'assez chouette et de très collectif à la fin. Donc tout le monde devrait y trouver son bonheur.
Oui, et vous en avez parlé un peu, mais il y aura des fils conducteurs du programme, des grands thèmes qui vont se développer sur plusieurs temps d'ateliers, de tables rondes, de discussions, de projections. Est-ce qu'on pourrait les citer, voilà, ces fils conducteurs-là que vous avez mis à point ensemble?
Eh ben oui, bien sûr. On a rajouté un fil évidemment sur les luttes paysannes. Donc, ben, on va parler de sécurité sociale alimentaire, on va parler de lutte contre les fermes usines, on va parler de l'agriculture paysanne et de l'histoire de luttes qui sont victorieuses des paysannes. On a un fil autour de l'antirépression, c'est d'actualité, tristement d'actualité, mais du coup, on va justement parler de comment cette répression s'abat sur les militants et comment on peut s'en prémunir individuellement et collectivement. On va parler de mouvements d'action et de stratégies d'organisation collective. On va parler de lutte contre les oppressions. On va parler d'histoire des luttes. Il y a justement un vrai intérêt à essayer de re-raconter, remontrer une histoire des luttes qui n'est pas forcément très connue ou très mise en avant. Et on pense que les résistants doivent servir à ça aussi. On va parler de
juridique au service des luttes. Avec plein d'interventions sur comment est-ce que le droit peut, en l'occurrence là on voit que le droit est utilisé contre les militants écologistes, mais les militants écologistes savent aussi utiliser le droit pour obtenir des victoires. On va parler de savoir naturaliste, avec comment construire des nouvelles alliances avec les autres êtres vivants dans nos luttes. On va parler il y a un fil un petit peu autour de la question des institutions. Comment est-ce que les institutions, les expériences municipalistes notamment, qui ont pu avoir lieu et qui ont pu aussi être mises au service des luttes. Donc c'est très très large et dans chacun de ces thèmes. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait à la fois des temps de conférences et de tables rondes avec donc des personnes qui viendront partager leurs expériences et leurs expertises sur ces sujets-là, qui seront aussi des temps de discussion, bien sûr, et puis ensuite des temps d'approfondissement un peu en plus petit comité pour que les personnes qui ont participé aux tables rondes puissent creuser un peu les questions qui auront été abordées. Il y aura un fil qu'on a oublié aussi qui va être très intéressant, qui est un fil autour de l'enquête militante. Et donc comment on peut faire la lumière, enfin parce que ce qu'on on a beaucoup discuté pendant toute la préparation des rencontres de comment faire plus apparaître à la fois les luttes sociales et les luttes écologistes, et puis en fait au fur et à mesure de nos discussions ce qui apparaît c'est qu'en fait ces luttes elles sont déjà intrinsèquement liées, notamment parce que ce sont les mêmes personnes qui détruisent le vivant et qui détruisent les conditions de travail, tout ce qui concerne un peu les réformes sociales, etc. Et donc il y a l'idée de creuser à travers aussi ce fil enquête militante, mais qui sera et tous les temps de l'été, comment est-ce qu'on peut mieux prendre conscience et mieux cibler qui sont les entreprises ou les mécanismes politiques et économiques auxquels on fait face et comment mieux y faire face ensemble. Donc, à travers tous ces fils-là, on a essayé de balayer un peu largement tout ce qui traverse, il nous semble, aujourd'hui les luttes pour avoir un temps de réflexion sur tous ces sujets-là et un temps aussi d'apprentissage. Je pense qu'on va apprendre plein de trucs. En fait, il y a plein de gens vraiment incroyables qui vont venir parler et partager ce sur quoi ils travaillent. Donc, voilà.
Oui, et c'est quelque chose qui m'a marqué quand tu dis que effectivement les mêmes personnes qui détruisent le vivant sont aussi les mêmes personnes qui veulent détruire un modèle social de comment dire de soutien social. On l'a vu avec la réforme des retraites. Et en ça, on ne peut pas ne pas citer aussi le patriarcat. En fait, comment les structures patriarcales sont aussi des structures capitalistes. Donc je suppose aussi il y aura des temps consacrés à ça, au féminisme.
Oui, bien sûr, il y a tout un fil qui s'articule autour de la lutte contre les oppressions. Donc comment est-ce que par nos luttes, on lutte contre ces oppressions, mais aussi comment, au sein même de nos luttes, on a encore des choses à réfléchir pour justement sortir des mécanismes de domination dans lesquels on est éduqué, auxquels on est éduqué, quoi, et donc qui font aussi partie de nous et qui traversent aussi nos collectifs. Donc dans le fil de lutte contre les oppressions, il y aura différentes choses, notamment une table ronde sur la question de la reprise de terre dans une perspective féministe, donc avec des paysannes d'ici et puis d'ailleurs aussi qui croiseront leurs regards. Dans ce fil-là, il y aura aussi des réflexions sur l'autodéfense féministe, comment on peut s'autodéfendre face au patriarcat. Il y aura des temps aussi à destination des hommes et sur la question de la posture d'allié du féminisme à destination des hommes par les hommes pour qu'ils se saisissent de ces questions. Parce que voilà, on sait que c'est un enjeu important, la question de comment être des alliés dans les questions de lutte contre les oppressions, quelles qu'elles soient. Et puis, il y a aussi toute une... on travaille aussi, je fais un peu le lien avec ça, parce que la domination patriarcale est aussi une domination qui s'exerce sur les enfants. Et donc, on a aussi toute une réflexion sur un espace enfant qui sera dans lequel on travaillera aussi à l'autodéfense des enfants. Et puis, comment est-ce que les enfants peuvent être aussi acteurs de ces rencontres et y prendre toute leur part à travers les luttes qui traversent aussi l'enfance et qui sont aussi des luttes contre le patriarcat. Donc c'est évidemment des questions importantes, d'autant que c'est des questions qui sont importantes dans les luttes depuis toujours. J'ai écouté récemment, c'était l'anniversaire de la lutte des ouvriers de l'IP. Donc Besançon, il y a quelques décennies, donc une lutte dans laquelle les ouvriers ont repris en main leur outil de travail et se sont appropriés leur outil de travail en vendant pendant la grève justement les montres qu'ils fabriquaient. Et en fait, il y a eu une lutte féministe très importante au sein de cette lutte-là. Donc pareil, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui nous semble évidemment intrinsèquement lié. Lutter contre le capitalisme, lutter contre le patriarcat et lutter contre les personnes et les mécanismes qui détruisent le vivant, c'est évidemment, ça fait partie du même mouvement et c'est des choses qui sont présentes dans les luttes aujourd'hui, donc qui sont présentes aux résistantes.
Oui, c'est super intéressant. Rien que quand vous entendre parler, je pense qu'on aura tous et toutes beaucoup, beaucoup à apprendre et à se nourrir pendant ces 4 jours. Peut-être pour parler un petit peu des questions pratiques. Alors, est-ce qu'on peut, ça va être sur le Larzac, est-ce qu'on peut dire un lieu plus précis où ça va se dérouler?
Oui, c'est pas un secret, c'est sur la commune de la Petite Arborade, à la Salle de Tarte particulièrement. Sur le lieu d'une ferme qui nous accueille gracieusement, et encore merci d'ailleurs aux personnes qui nous accueillent.
Oui, et donc vous allez installer tout le terrain pour l'événement courant juillet. Vous cherchez des bénévoles, beaucoup de bénévoles, j'ai vu.
Oui, on cherche effectivement des bénévoles. Il y a un formulaire d'inscription pour devenir bénévole qui est trouvable sur le site Les Résistantes 2023. C'est aussi possible évidemment de contacter les personnes que vous connaissez sur le Larzac et de se mettre en lien de cette manière-là. On cherche des bénévoles. Il y a un chantier d'ailleurs bénévole, un temps de rencontre et d'accueil pour les personnes qui voudraient s'impliquer un peu dans la préparation qui a lieu ce samedi. Au niveau de la salle de tâche sur les terrains, pas loin de la ferme qui va nous accueillir cet été. Pareil, n'hésitez pas à venir samedi. Il y a aussi des chantiers qui vont avoir lieu à partir du 12 juillet, sur place. Donc des chantiers de préparation, des chantiers de construction, toutes les volontés sont les bienvenues. On cherche particulièrement en ce moment des personnes qui auraient aussi des compétences en électricité, en plomberie, des compétences un peu spécifiques comme ça, parce que évidemment c'est une sacrée logistique quand même d'organiser ces rencontres pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Et on cherche aussi du matériel. Donc on a aussi sur le site toute une liste de matériel qu'on recherche pour des dons. Je vous fais pas la liste tout de suite, vous la trouvez sur le site, mais globalement, tout ce qui peut servir à construire un campement et puis des espaces. Voilà, je pense par exemple, on cherche beaucoup de choses pour faire de l'ombre, des tentes berbères, des tentures, des tapis, des poufs pour les endroits un peu où on pourra se poser tranquillement à l'ombre pour se reposer de toute cette effervescence. On cherche aussi plein de petits matériels, du bois, des pinceaux, de la peinture. Enfin voilà, comme vous imaginez, on essaye de fonctionner en autogestion au maximum, même si c'est quand même une grosse logistique. Et donc, on fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les choses que vous pourriez avoir dans votre garage qui ne vous servent plus, mais qui pourraient nous servir.
Oui, très bien. Eh bien, on va diffuser ces appels à bénévoles que vous pouvez retrouver sur terredelutte.fr, si je ne me trompe pas, et lesresistantes2023.fr aussi. Et c'est possible donc aussi de déjà s'inscrire, prendre sa place, et aussi de remplir un formulaire pour devenir bénévole. On peut préciser aussi qu'il y aura du coup la possibilité de camper sur place, c'est ça ?
Camper sur place, ouais, c'est ça. Alors, on précise que c'est mieux, vous trouverez plutôt les informations sur le site Les Résistantes 2023, qui est le site officiel sur lequel on fait passer toutes les informations. Concernant l'inscription, effectivement, il y a un formulaire, donc l'inscription est à prix libre. On vous invite à vous inscrire parce que ça nous permet, nous, d'organiser plus facilement, notamment les questions de cantine. Parce que, donc, on a plein de copines et de copains qui vont venir d'un peu partout en France pour nous faire une cantine militante autogérée. Pour nourrir tout ce petit monde et cette cantine sera également à prix libre avec une alimentation de qualité, un maximum de produits locaux. On cherche aussi d'ailleurs, je crois, des personnes qui pourraient fournir notamment de la farine. Voilà, donc tout ça, ça nous aide beaucoup si les personnes s'inscrivent sur le Hello Asso. Et puis il y aura sur place la possibilité de dormir, il y aura des sanitaires, il y aura bien sûr la brasserie du Larzac qui, elle, ne sera pas à prix libre mais qui pourra, avec des jus, de la bière, etc., abreuver tout le monde. Et il y aura bien sûr de l'eau aussi potable sur place. Mais on conseille fortement aux gens de se munir de casquettes et de chapeaux parce que les chaleurs risquent d'être chaud.
Et oui.
Toutes questions, on reste évidemment disponible. On a le mail contact@lesresistantes2023.fr. On répond à tout ça. Et puis, bien sûr, on accueille avec plaisir toutes les propositions de coups de main de tout type.
Super, eh bien merci beaucoup à Enora et Victor de Terre de Lutte. Merci d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui et bon courage pour la suite. Je pense qu'on va se tenir au courant pour tout ce qui est radio et puis peut-être autre chose. Et donc voilà, merci beaucoup à vous deux.
Merci Radio Larzac.
Merci beaucoup.
Et on continue cette émission, l'actu sur un plateau, c'est la dernière de la saison. Alors je vous propose maintenant un reportage que j'ai réalisé il y a quelques semaines à l'occasion de la venue du trio Albad, un trio qui fait des chants polyphoniques en occitan, qui a aussi animé des ateliers dans les classes bilingues occitan des écoles de Millau. Et on l'écoute tout de suite. Les voix du trio Albado résonnent dans la salle René Rieu à Millau ce vendredi 12 mai 2023. Un chant polyphonique brut et doux à la fois, sans instrument. Deux femmes et un homme qui parcourent et transmettent des chants occitans, des concerts qui sont aussi des rencontres et des occasions de transmission autour de cette langue. Pendant une semaine, le trio a animé des ateliers de chant avec les sections bilingues occitan des écoles de Millau, un projet financé par le département de l'Aveyron et soutenu par les associations millavoises de promotion de l'occitan. Aujourd'hui, c'est la restitution des enfants, accompagnés d'un concert du trio Albado. Anne-Ange Albert, chanteuse du trio, présente ce parcours artistique.
Alors ce sont des parcours assez rapides puisque nous les avons vus trois fois chaque classe. Nous leur avons transmis un ou deux chants. Donc l'idée c'est d'aller à la rencontre d'une façon de chanter. Nous avons chanté quand c'était possible avec des plus grands à plusieurs voix. Nous avons fait des jeux vocaux, nous avons essayé de les faire rentrer dans notre univers aussi de chant a cappella et d'accompagnement vocal. Et on a aussi pu danser certains chants puisque nous avons apporté certains chants qui étaient des danses. Voilà, et donc tout à l'heure, nous ferons la restitution.
Fais-nous tous un balanda,
Chanter ensemble, c'est aussi ressentir l'appartenance à un groupe par le biais des voix qui s'entremêlent de façon harmonieuse. À travers les vibrations du chant polyphonique occitan, le trio Albado cherche à tisser ses liens à travers les chants.
Dans les concerts, comme on chante a cappella, c'est quelque chose d'assez direct et je pense que ce que l'on souhaite faire passer, c'est une émotion directe qui peut être perçue par le public. Les vibrations que l'on a, nous, qu'on essaie de créer en chantant, on espère en tout cas qu'elles touchent le public et qu'ils vibrent avec nous. Et surtout qu'il donnera envie au public de chanter.
La notion de lien dans le chant polyphonique se retrouve aussi dans la transmission de ce patrimoine. Luci Acheri, chanteuse du trio Albado.
En étant chanteur, se réclamant chanteur du domaine des musiques traditionnelles, on est presque automatiquement aussi transmetteur, parce qu'on s'empare de tout le répertoire, toute la matière qui existe déjà, et on la transmet soit à travers un travail plutôt de création, qui est ce qu'on va proposer là et qu'on propose d'habitude lors de concerts, soit, mais du coup, également au travers d'un travail de transmission, qu'il s'agisse des enfants, là, comme on l'a fait cette semaine, mais aussi des adultes.
C'est donc un patrimoine vivant.
On estime qu'il est vivant et qu'il a toute sa place justement par rapport à ce lien social. Je pense que les musiques traditionnelles ont ce rôle à jouer, ont cette fonction dans la société et on le voit quand les gens chantent ensemble, il se passe vraiment quelque chose.
L'occitan vit aussi grâce à l'intérêt grandissant envers cette langue et cette culture, comme l'explique Pascal Gaumont, chanteur du trio Albado et professeur de chant traditionnel au Conservatoire de Toulouse.
Ça fait déjà pas mal d'années que je transmets et que cet intérêt, on le sent monter en Occitanie, mais aussi au-delà de l'Occitanie. C'est-à-dire que des gens dans d'autres pays proches ou dans le nord de la France s'intéressent aussi aux chants occitans pour apprendre ces chants, pour les écouter. Mais de plus en plus ici en Occitanie également, et on le voit aussi après la pandémie, il y a de plus en plus de jeunes générations qui se tournent vers nos répertoires de chants et aussi d'instruments et aussi vers la danse et vers la langue, parce que c'est un vecteur de lien social d'une part, et puis ça permet aussi de créer beaucoup de liens entre les personnes, ça permet aussi de créer beaucoup de choses nouvelles. Donc c'est pas uniquement un legs du passé, c'est pas uniquement un patrimoine ou un matrimoine, mais c'est vraiment un véhicule pour faire de nouvelles choses, des choses qui iront vers l'avenir.
Promouvoir l'occitan comme vecteur de lien social, c'est aussi la mission des écoles bilingues de Millau et des associations qui font vivre cette culture sur le territoire. Ce sont Recaliu et l'Hostal de la Lingo qui ont programmé le concert du trio Albado à Millau.
Le Recaliu, si on part un petit peu de l'étymologie du mot, c'est la petite braise rouge qui reste sous les cendres quand le feu de cheminée est éteint.
Jean-Paul Rouche de l'association Recaliu.
Et puis le matin, en y soufflant dessus, donc, ça permet de rallumer le feu. Alors c'est un petit peu une symbolique que l'on applique à la langue en général. On a envie qu'en soufflant un petit peu sur l'occitan, il se ravive, il se ranime et que bon, il y a un peu plus d'occitan à Millau, notamment dans les noms de rue, dans les spectacles, dans les manifestations. Voilà.
Pour rebondir sur l'étymologie, nous, l'Hostal de la Lingua, c'est la maison de la langue.
Naïma Katz, de l'Hostal de la Lingua.
Donc nous, on a des bâtiments où on accueille la calandraide de Millau, mais on a aussi un projet de faire des travaux justement sur ces bâtiments pour pouvoir accueillir aussi des stages de chant, toutes des activités culturelles qui mettent en lien et qui favorisent la culture et ses liens entre les gens, voilà.
Les deux insistent sur l'importance du lien intergénérationnel que la pratique de l'occitan permet.
Alors ça crée du lien parce que bon, là ce sont des enfants, des jeunes qui assistent donc au spectacle, mais leurs parents ou grands-parents connaissent ou ont entendu parler cette langue. Hein.
Et pour nous, par rapport à la Calandrette, où il y a un travail d'enseignement immersif, voilà, c'est vraiment de la promotion de la langue parce qu'ils apprennent. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette langue, elle vive aussi hors des murs des écoles et que les enfants, enfin toutes les personnes qui apprennent et qui parlent cette langue, eh ben, ils voient qu'en fait, ça a un sens aussi. C'est pas qu'un enseignement entre quatre murs. Et nous, on fait les feux de la Saint-Jean, justement, avec ben, un côté festif ou les balletis où on danse. Enfin, c'est des danses vraiment à deux où on passe de partenaire à l'autre, etc. Donc il y a vraiment un côté lien intergénérationnel et qui est important.
Ces initiatives montrent que l'Occitan est toujours vivant à Millau et ailleurs. Qui parlera cette langue demain ? La réponse dépend de nous toutes et tous.
Voilà, nous sommes de retour dans l'actu sur un plateau. Vous venez d'entendre un reportage sur le chant occitan comme créateur de liens. Merci à l'association L'Hostal de la Langue pour nous avoir proposé ce sujet. Merci pour leur accueil aussi. Et maintenant, sur Radio Larzac, c'est la dernière actu sur un plateau de la saison. Et bientôt, notre grille va basculer en grille d'été. Alors, il n'y aura plus d'agenda pour juillet et août. Donc, je en profite pour vous rappeler quelques rendez-vous qui vont se passer à Millau et ses alentours cet été. Alors, je commence par le musée de Millau et des Grands Causses qui ouvre ce samedi 24 juin, pendant tout l'été et même jusqu'au 31 décembre. Vous allez pouvoir visiter l'exposition épidermique des Causses aux gants. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la collection de ganteries et mégisseries du musée sous un nouvel angle. D'ailleurs, ce samedi 24 juin à 15h, vous pourrez participer à une visite guidée de l'expo avec le médiateur. C'est gratuit, il suffit juste de réserver. Vous trouvez toutes les infos sur millau.fr. Et ensuite, côté festif et côté manger, parce que c'est important quand même dans l'Aveyron, vous pourrez retrouver les marchés gourmands du soir organisés par l'association Les Fermiers de l'Aveyron. À Millau, ce sera un lundi sur deux à partir du 10 juillet. À Sévrac, un mardi sur deux à partir du 18 juillet. À Saint-Affrique, ce sera le vendredi 14 juillet et puis un jeudi sur deux. Et à Saint-Jean-du-Bruel, c'est une date, le 13 juillet. Donc voilà, ils vous attendent pour vous servir des très bonnes choses à manger. Il y aura aussi des marchés de créateurs. Et côté festival, on sait que l'été, c'est un peu le moment des festivals partout. Alors, il y a bien sûr l'abbaye de Sylvanès qui propose un festival de musique sacrée et musique du monde. Ça va se passer du 14 juillet jusqu'au 27 août. À ouvrir le bal pour cette 46e édition, c'est l'ensemble vocal et instrumental de Montpellier avec la chorale de Sète qui se produiront le vendredi 14 juillet à 17h à l'abbatiale de Sylvanès avec une messe de Mozart. Les billets sont entre 15 et 30 euros et tout le programme qui est très riche est à découvrir sur sylvanes.com. Et puis bien sûr ici à Millau, il y aura Millau en Jazz du 16 au 22 juillet. Ça va être 80 artistes et 7 scènes un peu à Millau et ses alentours. À Millau notamment, ce sera au château de Sambucy. Parmi les artistes, je vous signale Nora Kam, Ishkero, Sandra Nkake, Gugu Pangouin, un groupe qui sera en concert le 21 juillet. Le 21 juillet, il y aura aussi Émile Londonien que vous allez pouvoir entendre aussi sur les ondes de Radio Larzac parce qu'on va l'avoir en interview bientôt. Toute la programmation est sur milieujazz.fr et il y a certains rendez-vous qui sont gratuits aussi. Et pour conclure, on n'oublie pas un peu plus loin de Millau, à Chanac, en Lozère, le festival Détour du Monde du 21 au 23 juillet. C'est des musiques du monde, comme le nom l'indique. Et il y a aussi une radio éphémère du festival, la radio Rumeur du Monde, auquel Radio Larzac va participer aussi. Et là, la programmation est sur détourdumonde.org.
D'ailleurs, les enfants de Radio Sommière ont réalisé un petit message pour vous présenter cette nouvelle édition qui fêtera les 20 ans du Détour du Monde à Chanac que je vous propose d'écouter.
20e édition du Festival des Tours du Monde. 20 ans d'engagement pour la diversité et la musique.
À Chanac, en Lozère, les 21 et 22 juillet.
Balade musicale, parcours artistique en jardin, projection débat et concerts.
Retrouvez les groupes d'Ajaté, le reggae de The Congos, le tango de Tango Motan, Nada Benz du Togo, le son cubain de Eliades Ochoa et pour finir, le groupe Electrotrans,
Aïté mon amour.
Billetterie et informations sur détoursdumonde.org.
Merci Nico, ça donne envie d'y être.
Oui, carrément.
Et donc voilà, c'était pour les rendez-vous d'été, mais l'agenda continue encore quelques jours. Et pour le moment, juste avant de conclure cette dernière émission, ça donne un peu de nostalgie déjà. Mais bon, on va se consoler avec les blagues des enfants du classe de l'association Myriade. C'est le dernier groupe, on a fait un petit montage de leur humour et on les écoute tout de suite.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct du Classe Radio Larzac.
Et ouais.
Nous allons aujourd'hui vous raconter des blagues.
Quelle est la monnaie de la mer ?
Le sous-marin.
Monsieur et madame R ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ?
Jade, parce que j'adhère.
Monsieur et madame Or ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Jade, parce que j'adore.
Un monsieur et une madame rentrent dans un magasin. Le monsieur et madame demandent au vendeur où sont les fruits. Le vendeur dit à gauche, encore à gauche, puis à droite, devant, à droite, à gauche, devant. Après, vous serez arrivé aux fruits. Le monsieur dit, je pourrais avoir une carte. Et après, ils disent, une carte bleue ?
Pourquoi les marins ne peuvent-ils pas écrire ? Parce qu'ils ont jeté l'ancre ?
Monsieur et madame, à l'école, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle Eva parce que elle va à l'école.
Quel est le comble pour une sorcière ?
Avoir des doigts de fée.
Quel est le comble pour un joueur de pétanque ?
C'est de perdre la boule.
Quelle est la différence entre une tortue qui marche et une tortue qui saute ?
La première est une tortue normale, la seconde est une tortue ninja.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté toutes nos blagues. Merci à tous. C'était le Classe de Cantarane à la radio Radio Larzac. Bye bye.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'était la dernière Actu sur un plateau pour cette saison. Vous pouvez la retrouver en podcast comme toutes les autres sur radiolarzac.org et elle est rediffusée ce vendredi à 19h. Mais Radio Larzac ne s'arrête pas là. Il y a une grille d'été. Alors Nico, peut-être tu peux nous dire deux mots sur ce que tu es en train de préparer ?
deux mots. Je suis en train de préparer la grille d'été. Ouais. On a eu des trucs, des émetteurs qu'on cramait, tout ça. Enfin, bon, oui. Ça a été un peu rock'n'roll avec les orages. Donc, je suis dessus. Ça commence dans une semaine. Je la finalise. Donc, te dire ce qu'il y a dedans, je peux te dire les grandes lignes, mais elle n'est pas finalisée. Il y aura pas mal de rediffusions des émissions de la saison et puis quelques nouveautés qui vont intégrer la grille. Donc une émission musicale de Mika, Calibre 12, Du poil sous les bras, une émission d'une heure proposée par Blandine qui va intégrer la grille en hebdomadaire. Et puis Les Petits Ruisseaux, une émission autour de l'eau. Voilà, et puis voilà, il y aura aussi quelques apartés. Normalement on devrait avoir des échos justement de ce qui va se passer à Chanac. Pour le Festival des Tours du Monde, on aura Radio Résistante début août. Et voilà, après on va souffler un petit peu et puis pour se retrouver d'attaque pour la rentrée septembre-octobre.
Et oui, il y a déjà des surprises qui se préparent pour la rentrée, mais on vous en reparlera. Et bien, je remercie nos invités de Terre de Lutte et Nora et Victor. Je vous rappelle le site lesresistantes2023.fr pour prendre votre place aux résistantes, donc les rencontres de lutte locale et globale du 3 au 6 août cet été sur le Larzac au Salvetat. Et Radio Résistante, bien sûr, sera présente. Vous pouvez nous contacter si vous voulez participer. Merci aux enfants du classe de Myriade pour leurs blagues. Merci beaucoup Nico pour la technique.
Merci à toi Sophia pour l'animation.
Et surtout merci à nos auditeurs et auditrices. À bientôt sur nos ondes et bel été à toutes et tous.
Ciao ciao.